Merci Eric. Et encore merci à tous les organisateurs de me permettre de communiquer ici à Genève et de vous présenter quelques exemples se rapportant au sujet de ce colloque. Je ne vais pas présenter ça en tant que membre du comité de déontologie de l'ICOM. Je ne vais pas vous parler des valeurs ou bien de l'éthique qui accompagne certaines collections. Je vous parlerai beaucoup plus des circonstances historiques qui ont amené la constitution de certaines collections en France, par exemple. D'abord, bien sûr, le titre, c'est « Butin et trophées de guerre ». Butin, on peut dire que c'est toute richesse ou trésor prélevé sur un territoire conquis, qui peut être également constitué de richesses mobilières, de bétail, d'esclaves, de femmes, que l'on peut ramener d'une expédition. Bon, d'une manière aussi plus terre-à-terre, le butin peut être le fruit de pillages de sites archéologiques, mais c'est le sujet ne nous intéresse pas aujourd'hui. Le droit au butin permet à des conquérants de piller des biens culturels d'autres pays, de spolier les biens d'un pays soumis, etc. Et le trophée. Chez les Grecs et les Romains, je pense que c'était plus simple. Le trophée était formé des armes du vaincu qu'ils accrochaient à un arbre, d'après ce que j'ai entendu. Ici, le trophée qui nous intéresse, c'est plutôt la dépouille d'un ennemi vaincu. Donc, les histoires que je vous rapporte concernent un butin, le trésor de Ségou. Ségou se trouve au Mali. Un trophée, la dépouille du roi Sialébé Diata de la Casamance. Voilà. D'abord, comment m'est venue l'idée de faire cette communication? En 1994, Jean-Yves Marin et moi, Vincent Negri, on avait organisé un colloque à Dakar dans le cadre du Comité international des musées d'archéologie et d'histoire. Et un collègue qui était le conservateur des archives nationales nous avait fait une communication sur la conservation du trésor de Ségou. C'est comme ça que j'ai eu connaissance de ce dossier. Ensuite, bien sûr, dans le cadre du sommet de l'OCI, Ahmadi Boukoum avait pu ramener le sabre de guerre de la Jomar qui a été exposé à Dakar. L'autre élément sur les dépouilles, c'est encore le Quai Branly. C'est en février 2008, j'avais participé à un colloque au niveau du Quai Branly sur les collections anatomiques, des collections anatomiques aux objets de culte. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Alain Froment, un gars du muséum, qui m'a parlé du roi Sialébé Diata, qui est conservé dans les portoirs du musée de l'Homme, et qui m'a indiqué les moyens qu'il fallait faire pour récupérer cette dépouille. Donc, commençons d'abord par le trésor de Ségou. Vous savez, bon, je vous présenterai rapidement le Sénégal. Les deux éléments sont, bien sûr, vous voyez ici, sa part du Fouta et la Casamance. Le premier, on va commencer par le nord. Et la Jomar. Pour bien comprendre cet élément, je vais déjà vous présenter deux personnages, deux chefs de guerre, Ella Jomar et Federbe. Ella Jomar va se tailler un grand empire. Federbe, lui, il avait décidé de faire la colonisation du Sénégal. Ella Jomar, qui est-il? Il est né dans le Fouta. Et dans le Fouta, à 23 ans, il va étudier en Mauritanie et dans le Fouta Djallon. Il fait ensuite son pèlerinage à la Mecque, vit de longues années en Orient. Il se fait recevoir dans la confrérie Tidiane. Il revient au Soudan avec le titre encore rare d'Elage, celui de calife chef suprême des musulmans pour l'Afrique noire. De retour, son retour est triomphal, il est accueilli par les souverains de Bornou. En revanche, le roi du Massina, qui appartient à la confrérie Hadria, le reçoit froidement, et le roi de Ségou l'emprisonne puis le relâche. Après, on voyage au Foutatoro, il s'installe quelque part à Dinguiraye, où il construit un tata, une forteresse. Là, il fonde une communauté religieuse et militaire où affluent plusieurs fidèles. En 1851, le calife décide d'entamer une guerre sainte pour convertir la plupart des peuples. En 10 ans, il va se tailler un empire qui va du Sénégal jusqu'à Tombouctou. Et de l'autre côté, nous avons Federbe. Federbe, c'est également un autre chef de guerre. Mais disons que tant que les Français restaient à Saint-Louis du Sénégal et à Gorée tout au début, ils n'inquiétaient personne. Mais à partir de 1854 et après 1884, à la conférence de Berlin, les Français décident de signer le traité de paix et d'aller un peu plus à l'est. Alors là, ça commence à changer. Ils vont dans des territoires qui ne leur appartiennent pas. Et en fait, et Feder, bien sûr, se méfiait beaucoup de ce marabout, tout couleur. C'était un danger pour la vision qu'il avait du Soudan. Sa vision, c'était que le nord-ouest de l'Afrique était encore divisé en un grand nombre d'États, les uns plus ou moins barbares, les autres presque sauvages. Il en résultait qu'arrêter à chaque pas le commerce et l'influence des établissements français sur les côtes ne pouvaient pas aller plus loin à l'intérieur. Donc il fallait que ça change. En plus, les Français connaissaient bien cette région parce que vers 1795, Mungo Park leur avait donné la description du Soudan. Et également, bien sûr, René Caillé avait circulé à Tombouctou, séjourné, et leur avait présenté les richesses culturelles et même économiques de cette région. Bien sûr, l'objectif, c'est de se tailler un grand empire, qu'on appellerait bien plus tard l'Afrique occidentale française. Vous avez là les différentes dates, depuis 1617 au niveau de Saint-Louis, jusque vers 1899, vers le Mali. Les raisons du conflit, parce que quand même, pour qu'il y ait un conflit, il faudrait bien trouver des arguments. Alors, premier acte et premier chef de guerre. Et là, Jomar gêné. Mais c'est encore un poteau pour lui faire la guerre. Alors, Federbe décide d'abord de lui envoyer un missionnaire, le Mage. Mage devait, après publier son voyage dans le Soudan occidental, de 1863 à 1866, parce que pour Federbe, la mission qu'il avait confiée à Mage, c'était très simple. Relier le Sénégal à l'Algérie à travers au moins 400 lieues du désert, c'était chose impossible, quelle que soit la route que l'on suive, ou du moins qu'il n'y aurait pas de conséquences sérieuses sans les frais de transport à dos de chameau. Alors, pour s'emparer d'un commerce aussi prospère que le Soudan, avec son coton, etc., son or et autres, au dire des voyageurs qui s'y trouvaient, il fallait s'emparer du Haut-Niger en établissant une ligne pour le relier au Sénégal entre Médine et Bamako, et de lancer un chemin de fer à travers le Sahara. Ça, c'était les conclusions de la mission de Mage. Le gouverneur voyait que Ella Jomar n'était plus un danger parce qu'à un certain moment, Ella Jomar s'était attaqué aux Français à Médine et qu'il avait assiégé. Au bout de 59 jours, le fort de Médine avait été libéré. Ella Jomar a vu que essayer d'avoir une prétention vers l'ouest, c'était dangereux. Donc, il a fait tout un déploiement de ses forces à l'est, en essayant donc d'avoir les Français avec lui. En envoyant Mage arrive à Ségou, mais il se trouve qu'au moment où il était arrivé, Ella Jomar venait de disparaître, de mourir dans les falaises de Banyagara, qu'on nous a présenté hier. Mais Mage ne le savait pas. Par contre, son fils qui était installé au pouvoir, lui le savait très bien, mais il ne voulait pas divulguer cette information parce que son empire avait des pieds d'argile. C'était trop fragile. Donc, pendant quelques années, de 1863 à 1866, Mage va être confiné à Ségou, avec une promesse toujours, vous allez rencontrer la Jomar, etc., etc. Donc, et cette disparition d'Ella Jomar, après qu'il soit taillé un grand empire, allait quand même causer des tas de problèmes, parce que les Bambara n'ont jamais été soumis, c'est les Maliens. Il va y avoir, bien sûr, des révoltes qui vont éclater partout. Et Feder, et du moins Ahmadou, tentait coûte que coûte de colmater les bêches sans trop y parvenir. Les Français devaient décider. Bon, entre les Tukulors musulmans fanatiques et les Bambara malinqués idolâtres qui se faisaient la guerre depuis 25 ans, une guerre d'extermination, l'intérêt n'était pas de prendre parti, surtout que les Tukulors ne les gênaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer d'autres missionnaires, Mange et Quintin, en 1880, pour qu'ils signent un traité de paix avec le descendant de la Jomar, à savoir Ahmadou. Et en même temps, bien sûr, discuter avec les Bambara en cours de route, parce qu'ils savaient bien que les Tukulors étaient dans un pays conquis. Donc, deuxième acte, deuxième chef de guerre. C'est le gouverneur donc Brière de Lille qui a envoyé ses missionnaires en leur demandant d'aller dans la région. Là, nous voyons Federbe, nous voyons Mange, et puis nous avons Ahmadou ici. Gallieni et ses compagnons vont entrer à partir de 1980, vont passer par Bafoulabé, le pays de Kita, dans le Bélidougou, et s'engager dans un pays en révolte contre Ahmadou. Gallieni, bien sûr, s'était efforcé de dissimuler le but de sa mission, mais son convoi, parce qu'il était chargé d'énormément de présents pour le roi Tukulor, et excita d'irrestibles convoitises. Une embuscade lui fut tendue par les Bambara à Dio. La moitié des tirailleurs sénégalais qui l'accompagnaient furent tués. Gallieni et ses compagnons entrèrent sur le territoire d'Ahmadou, non plus en ambassadeur avec des présents et autres, mais plutôt en fugitif, les mains vides. C'est pas grave, les Tukulors vont les recevoir, mais pas à Ségou, mais à Nangou, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils s'approchent de la capitale. Ils vont rester également plus d'un an, 10 mois, avec toujours la promesse de signer un traité avec Ahmadou, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que vers la fin, leur séjour étant resté trop longtemps, les Français de Saint-Louis commençaient à s'inquiéter et menaçaient de venir avec une armée les chercher. Donc, on se dépêche, on signe un traité, on va du moins discuter d'un traité qui ne sera jamais ratifié d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, on va voir que les Tukulors n'étaient pas dupes du traité que leur proposaient les Français. Gallieni lui-même rapporte les propos de Seydou Gueïla, qui était du moins envoyé par Ahmadou. Écoutons ce qu'il dit. Le Tukulor lui dit, les Français nous ont promis des canons qu'on attend toujours. Et c'est sûr que les Français ne vont pas donner ces armes de guerre au Tukulor. Nos envoyés ont été mal reçus à Saint-Louis en 1874. Après la mission Manche, c'est quand même pas normal. Vous avez soutenu nos sujets Bambara révoltés et donné asile à leur chef au Sénégal. Ça également, les Tukulors ne l'apprécient pas. Vous avez tué les Français toujours dans le logo Niabodi, qui était le représentant d'Ahmadou, sans nous dire pourquoi. Vous avez construit un poste à Bafoulabé, dans le territoire malien, sans nous avertir. Enfin, en venant, vous avez passé chez nos ennemis, malgré les défenses sultanes, vous avez pactisé avec nos sujets révoltés, vous avez beaucoup palabré sur votre route dans le Fouladougou, Kita et Bamako. Il y a là-dedans une obscurité profonde que nous n'avons pas encore percée. Bon, enfin, tout ça, on vous le concède. Et également chez vous, les Français, les gouverneurs changent et celui qui vient après ne reconnaît pas ce que l'autre a désiré. Et ça, c'est gênant. Donc, nous désirons sauvegarder les intérêts de Ségou. Et puis, il conclut en disant quand même que les Français sont les amis des Tukulors, vu que ceux-ci achètent quelques armes à Médine, ainsi que leurs étoffes. Le sultan Ahmadou sait bien que les Français, du moins, que les étrangers veulent s'installer sur le Niger, et que les Français veulent le faire avant les autres, parce qu'en fait, ils étaient au courant que les Anglais étaient également sur la piste parce que les Anglais étaient installés en Gambie et ils disaient quand même qu'eux, ils préféraient les Français. Comment? Parce qu'au point de vue sentiment, ça c'est lui qui parle, Seydou Gueïla, nous sommes toujours avec les Français car un homme qui ne peut têter sa mère doit têter sa tante. je rapporte. Donc, nous n'irons vers les étrangers que si nous ne pouvons pas nous entendre avec les Français. Et il conclut d'ailleurs, ça n'engage que lui. Et je le répète, une jeune femme va toujours vers l'homme qui lui donne le plus et lui assure le mieux la paix et la protection. Ça n'engage que lui. Alors, ils vont préparer un traité qui ne sera pas signé. Pourquoi ? Parce que déjà, les Français étaient en route. Et donc, mais avant de se séparer de Gallieni, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui donnent 200 gros d'or. 200 gros d'or, il faut multiplier ça par 5 grammes, quelque chose comme ça. Nous n'avons pas pu nous renseigner exactement sur la valeur de ces trésors. Parce que le Français dit, nous n'avons pas pu nous renseigner sur la valeur de ces trésors que le sultan cache dans ses magasins. Mais d'après ce que nous savons et nos interprètes, ces trésors, produits de fructueuses et incessantes razzias que la Jomar fit pendant de longues années dans les régions aurifères du Haut Niger et du Haut Sénégal, doivent se lever à plusieurs millions. Nous étions tenus d'autant plus au secret que nos ennemis du Fouta ne cessaient de dire à Ségou que nous ne sommes venus dans ce pays que dans le seul but de nous emparer de ces trésors, ou du moins de nous assurer de leur existence. Donc ils vont partir sans avoir ces renseignements. Deuxième élément, je vous montre rapidement le royaume de la Jomar, grand, et finalement, au moment où les Français vont se mettre en marche, avec toute la révolte des sujets, le royaume allait se réduire à cela. Donc, la situation donc, de l'Empire tout couleur au moment où ils arrivent. Troisième acte, troisième chef de guerre, Archinard. Lui, c'est la conquête qu'il veut. Là, je vous donne rapidement les éléments, les raisons. Selon le chef de guerre, Post, sa conférence sur le Soudan, il dit que Ahmadou a fait piller les villages, Doukoudougou fait enlever les femmes, donc il fallait des représailles. Selon Pérenet, notre commerce ne pouvait souffrir. À chaque fois qu'on demandait à Madani, le fils de la Jomar qui était installé à Ségou, d'être calme, il disait que les Français sont comme pour lui que des moustiques bourdonnants. Et que l'autre Ahmadou, toujours le capitaine Abdelkader, dit pour lui que pour Ahmadou, les Français ne sont que des commerçants de passage. Le conflit donc, va éclater. Et ce sera le 6 avril 1890. Ce grand empire va, selon la Croix, en 1880, le commandant Gallieni entre. La Croix rapporte le 11 septembre 1890 que les Français sont rentrés en s'emparant d'un trésor fabuleux. Selon Prost, l'attaque fut hardie, l'attaque fut dure, etc. Et que finalement, Madani s'est enfui en laissant ses coffres, son harem, sa femme, son fils. Et puis que de richesses abandonnées entre les mains des Français, cela fait souvenir des pillages en Chine. Selon le capitaine Abdelkader Mademba, lui, c'est très simple. L'armée était composée de 742 combattants, 203 Européens, de 570 non-combattants. Et quand ils sont arrivés, vu qu'ils connaissaient la position de la poudrière chez la Jomar, ils ont balancé un coup de canon là-bas. Et bien sûr, Madani a tout de suite filé sans combattre. Et en fait, il n'y a eu qu'un résistant, un fils d'Ahmadou, qui s'appelle Abdoulaye Tall, qui a dit que personne ne rentrait chez son père et armé d'un sabre a voulu combattre les Français. Il a été arrêté, il n'avait que 10 ans, calmé, etc. Et Archinard va l'amener avec lui en France où il va mourir au Havre en 1901 avec le grade de lieutenant. Bon, le trésor de Ségou. Alors, les Français se sont emparés d'un trésor. Pour certains, c'était dans l'ordre des 2 millions sur les Kemel. Malheureusement, Ahmadou, avec toutes ses dépenses, il ne devait rester que 900 000. J'ai été, durant les vacances, consulter les archives d'Aix-en-Provence. Je suis tombé donc sur les rapports des commissions. Alors, la commission du budget avait envoyé une lettre en disant qu'on aimerait bien savoir en quoi se constitue le trésor de Ségou Sikoro. Alors, on lui répond que une commission constituée sur les lieux sur l'ordre du commandant supérieur du Soudan, a évalué le trésor à 76 082 grammes d'or et à 157 000 225 grammes d'argent. En outre, les prises comprenaient un certain nombre d'objets de bijouterie, etc. Ces objets de bijouterie, j'ai oublié de vous dire, sont aujourd'hui au musée de Quai Branly. L'arme, le sabre, est au musée des Invalides, etc. Donc, sur proposition de l'administration locale, lui, le chef, a décidé de faire don à l'école orientale des langues vivantes, des livres et des manuscrits qui offrent un intéressant caractère historique. Les autres objets dont se compose la collection et qui constituent d'utiles ornements ethnographiques m'ont paru devoir être déposés soit à l'exposition permanente des colonies, soit au musée ethnographique du Trocadéro. Quant au stock d'or provenant de la prise de Ségou et qui est actuellement déposé dans les cases du trésor de Caille, j'ai donné l'autorisation au budget local du Soudan qui fonctionne depuis le 1er janvier de cette année et dont les recettes dans lesquelles figurent. Donc, cet or a été fondu et vendu. Voilà. Donc, rebelote, le trésor, la bibliothèque omarienne, aujourd'hui, a été, grâce à l'acte des descendants de la famille Tal, la Tidjania, aujourd'hui, regroupe plus de plusieurs millions d'adeptes. Et donc, une bibliothèque riche de 578 volumes est restée en France. Aujourd'hui, les microfilms sont disponibles pour la famille omarienne, mais c'est tout. Pour le reste, et au niveau de l'Europe. Et quelle est la conclusion de ça? Je ne pourrais pas vous parler du roi Sialébé, parce que c'est trop long. Donc, ce sera uniquement sur le trésor de Ségou que cette communication va porter, pour vous permettre de... Et la communication de Sialébé, la dépouille, ce sera peut-être l'objet d'une autre communication. Je vous remercie.
Merci Abdoulaye pour ce petit exemple de trésor pris à l'occasion des conflits coloniaux.
Alors, il y a certainement des questions, je pense.